Bonjour à tous, c'est Denis Brognard. Vous écoutez Vie d'aventure, un podcast où je m'entretiens avec des hommes et des femmes aux destins extraordinaires. Des aventuriers, scientifiques, photographes, navigateurs, plongeurs ou encore alpinistes. Ils ont en commun une soif d'exploration. Je vais à leur rencontre, ils se confient sur leurs exploits, leurs expériences, en traduisant par des mots leurs émotions. Une photographie sonore avec des personnages hors normes qui forcent le respect par leur courage et la dimension de leur engagement. Ces héros des temps modernes vont vous transporter dans leur monde, vous permettre de vous évader et de réfléchir avec eux à l'évolution de notre planète. Prenez le temps de les écouter, ces baroudeurs, ces voyageurs. Voici tout de suite un nouvel invité dans Vie d'aventure. Mathieu Tordeur n'a que 28 ans et pourtant déjà un CV de vieux briscard de l'aventure. Il est un touche-à-tout, partout, quel que soit le moyen de locomotion. D'une transat à la voile à un tour du monde en 4L en passant par des périples immenses à vélo, Mathieu Tordeur est entré dans la cour des explorateurs qui ont inscrit leur nom dans l'histoire en devenant, il y a quelques mois, le premier Français et le plus jeune explorateur au monde à rejoindre le pôle Sud en solitaire et sans assistance. Mathieu Tordeur, diplômé de Sciences Po aussi, et mon invité cette semaine dans Vie d'aventure. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors, évidemment, on va revenir sur cet exploit réalisé jusqu'au pôle Sud, mais avant cela, je voudrais qu'on comprenne comment tu es devenu un aventurier, un explorateur, parce que je le disais il y a un instant, tu es un touche-à-tout, et tu commences en 2012 comme équipier sur une transat.
Ouais.
À la voile.
Ouais, exactement.
C'est vraiment le point de départ de ta vie au long cours d'aventurier.
C'est bien qu'on commence par là parce qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'école pour devenir aventurier explorateur. C'est vraiment un long cheminement, c'est le fruit d'une passion. Et moi, ça a effectivement commencé avec des aventures, j'ai envie de dire, un petit peu accessibles dans la mesure où c'était des aventures que je rejoignais ou que je faisais, mais avec peu de moyens. Il y a effectivement eu cette transatlantique, mais juste avant ça, il y avait eu une traversée de l'Europe à vélo. Mais pour revenir sur la transat, moi, je rêvais de traverser l'Atlantique. Je rêvais de traverser l'Atlantique parce que j'avais été éveillé par plein de bouquins, de récits, de voyages autour du monde à la voile. Et j'avais fait pas mal de voiles légères dans mon enfance, sauf que bah voilà, j'avais 19 ans, j'avais pas de bateau, je ne pouvais pas être le skipper d'un bateau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon ordinateur et j'ai regardé des sites de bourses aux équipiers. Et les bourses aux équipiers, en fait, ce sont des skippers qui cherchent des bras, qui cherchent des matelots pour ramener des bateaux d'un continent à un autre. Et j'ai postulé tout simplement sur cette bourse aux équipiers et un skipper anglais qui était en Martinique cherchait quelqu'un pour ramener son bateau en Angleterre. Et donc j'ai pu rejoindre dans les Caraïbes et on a traversé l'Atlantique ensemble et avec d'autres personnes sur le bateau. Mais c'était, oui, peut-être ma première vraie aventure au contact d'une nature sauvage qui est l'océan Atlantique. Ouais.
À ce moment-là, Mathieu, tu te dis « ma vie ne sera plus jamais la même, je vais me diriger » dans cette existence un peu bohème d'aventurier explorateur, toi qui avais pourtant étudié au King's College à Londres et à Sciences Po à Paris, donc qui te destinait à une vie beaucoup plus raisonnable et raisonnée.
Ouais, en fait, je crois que j'ai eu du mal à assumer le fait que je voulais devenir un aventurier ou un explorateur parce que c'est des parcours qui sont pas classiques, qui sortent un petit peu du cadre. Et effectivement, quand on fait ces études-là et qu'on voit ses camarades partir dans des carrières un petit peu plus normées, tracées, eh ben, on sort un petit peu du lot et c'est pas évident, en fait, de se dire qu'on veut faire ça. Mais moi, c'est sûr qu'au fond de moi, j'avais envie de faire de ma vie une aventure, de partir à l'aventure, de faire des expéditions, de ramener des images, de faire des films, d'écrire des livres. Et c'est sûr que tout ça a pris du temps. Et j'ai eu la chance de faire des études dans lesquelles on avait beaucoup de temps l'été. J'avais parfois des stages obligatoires, mais la majorité du temps, je pouvais l'utiliser comme je le souhaitais. Et donc, au départ, je travaillais en tant que serveur dans un restaurant, je gagnais un peu d'argent. Et avec cet argent-là, je partais à l'aventure sur la transat, à vélo, en stop. Et puis, au fur et à mesure, tout ça s'est mis en musique, j'ai commencé à multiplier les expériences et puis ça s'est professionnalisé au fur et à mesure du temps. Mais si tu veux, le parcours a été une succession d'aventures qui étaient autant d'expériences. Et une fois que j'avais accumulé cette expérience-là, je gagnais en confiance en moi, en maturité probablement dans les aventures. Et c'est là que je me suis dit, je peux essayer d'en faire un métier. Et puis il y a eu une expédition dont on va parler, j'en suis sûr, qui a été vraiment le tournant. Ça a été ce tour du monde en 4L pour promouvoir la microfinance.
Ah mais ça c'est dingue parce que bon, la 4L c'est une voiture mythique, t'es beaucoup plus jeune que moi, mais moi je suis né avec la 4L, j'ai conduit des 4L. Et en 2013, toi tu pars donc pour ce tour du monde avec une raison bien particulière, promouvoir la microfinance.
Ouais.
Alors, on le rappelle rapidement, la microfinance, c'est ce qui permet aux peuples les plus en difficulté, les plus en voie de développement, eh bien, de progresser grâce à du microcrédit qui leur permet finalement eh bien, d'assumer leur vie avec de tout petits revenus.
L'idée, en fait, donc on était toujours étudiants. Je dis « on » parce que je suis pas parti tout seul dans cette aventure. Je suis parti avec mon ami d'enfance qui s'appelle Nicolas Aubert. Et tous les deux, on avait envie d'un grand voyage. On avait envie de partir à l'aventure. Et donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est qu'on a choisi de mettre en parenthèse nos études pendant un an pour faire un tour du monde. Et effectivement, on a choisi la 4L pour la raison que tu as évoquée. C'est que c'est une voiture qui rappelle un souvenir plus ou moins lointain à tous les Français parce que nos grands-parents, nos parents en ont eu, en ont conduit, ont appris à conduire dessus. Et donc, c'était un bon moyen pour nous que de fédérer les gens autour de notre projet. Et puis, c'est une voiture qui inspire un peu la sympathie parce que elles ont des bonnes gueules, elles n'ont pas la climatisation. Et donc, on se disait que de voyager dans un tel véhicule, c'était quelque chose qui allait nous aider à avancer et à créer les rencontres. Rien n'est électronique, tout est mécanique. Et donc, on peut faire réparer la voiture par un peu tout le monde, un peu n'importe où. Et avec Nicolas, on avait la chance de faire des études. On a tous les deux la chance d'avoir un passeport français. Donc, on se disait qu'on avait une chance inouïe de pouvoir entreprendre ce voyage-là. Et que si on pouvait, au-delà de faire un voyage pour nous et de voir le monde de nos propres yeux, si on pouvait essayer de se rendre utile un peu à notre façon et de manière très humble, hein. On n'avait pas la prétention de vouloir changer le monde, mais on se disait qu'on pourrait associer ce voyage de découverte à une action solidaire. Et donc, on s'est intéressé aux différentes problématiques de développement. Et c'est là que nous, on a découvert le microcrédit ou la microfinance. On n'était pas des spécialistes de l'économie ou du microcrédit, mais on s'est rendu compte que, voilà, avec des petites sommes d'argent, on pouvait les prêter à des micro-entrepreneurs, surtout des micro-entrepreneuses d'ailleurs, parce que le microcrédit bénéficie majoritairement aux femmes, et que si on prêtait des petites sommes d'argent, et bien ces sommes d'argent pouvaient être utilisées pour démarrer des activités génératrices de revenus et s'émanciper et sortir un petit peu de la pauvreté. Globalement, on a récolté 25 000 euros qu'on a répartis à 150 micro-projets à travers le monde, et l'idée était vraiment de rencontrer ces gens et de leur rendre visite en 4L. Et donc on a fait ça pendant un an à travers 40 pays.
Quels sont les pays du monde traversés qui t'ont le plus marqué ?
Le projet avec Nicolas, c'était vraiment de faire le tour de la Terre et de revenir en France. Donc, on est parti d'abord vers l'Est, vers Istanbul, l'Iran, puis l'Inde. Et l'Inde, ça a vraiment été le premier choc. L'Inde n'a pas de fascination pour l'Occident. Ils ont leur propre tradition, leur propre rituel. C'est très marqué en Inde et j'étais assez fasciné, moi, par cette société qui est très violente aussi. Et c'est vrai que de débarquer en 4L en Inde et de se frayer un chemin parmi les routes qui sont bondées et cette surpopulation, ça a été quand même un espèce de choc pour le système. Après, évidemment, des moments de bonheur aussi incroyables, hein, quand on va dans des temples comme le Taj Mahal, on se confronte à cette nature assez singulière. Quand on est arrivé en Inde avec Nicolas, je me souviens qu'on s'est dit qu'on était vraiment dans le bain. Ça, c'est un des bons et mauvais souvenirs parce que, croyez-moi, conduire une petite 4L dans un pays comme l'Inde, c'est pas une chose aisée. Et puis après, il y a eu des pays comme la Bolivie, qui sont d'une nature brute, incroyable, notamment un souvenir assez impérissable dans le Salar des Uyuni, qui est un désert de sel à 3000 mètres d'altitude qui ressemble à une autre planète, puisqu'on est vraiment sur un immense plateau désertique tout blanc. Et je me souviens qu'on a passé avec Nicolas 3 jours là-bas. Non pas qu'on avait besoin de 3 jours pour le traverser, mais parce qu'on avait envie de vivre dans ce désert pendant 3 jours et de ralentir un petit peu le rythme un peu effréné dans lequel on était, parce qu'on a voyagé un an, mais finalement, pour traverser 40 pays, c'était assez rapide.
Alors, il y a évidemment des aventures qui sont plus sportives, plus physiques, et notamment en 2015, cette Transcontinental Race
à vélo
entre Grammont en Belgique et Istanbul en Turquie, 4200 km à parcourir dans un temps imparti légèrement supérieur à 2 semaines. Donc il ne faut pas lambiner, il faut y aller, il faut rouler beaucoup. Mmh. C'est important aussi pour toi de lier l'effort physique, le défi, la performance à l'aventure, à la découverte.
Et c'est vrai que cette course-là, c'est un peu une course de fou parce que donc il faut traverser l'Europe en un temps un peu record parce que 2 semaines pour aller à Istanbul, eh ben il faut quand même rouler entre 200 et 300 kilomètres par jour. Moi, j'avoue que j'y suis un petit peu allé avec la naïveté de la jeunesse parce que j'avais pas anticipé la difficulté entre rouler 200 kilomètres une fois par mois et enchaîner 200, 250 kilomètres tous les jours pendant 2 semaines. Il y a une vraie différence. Mais c'est vrai que si j'ai participé à cette aventure et à d'autres d'ailleurs, j'avais couru le marathon des sables aussi, qui est une course à pied dans le désert du Sahara. Mais si je participais à ces aventures d'ultra-endurance comme la transcontinentale, c'était avec un objectif un peu plus ambitieux, un peu plus éloigné, pour justement faire des expéditions sportives de longue distance. Et je me disais que si j'arrivais à tenir le coup dans ce genre de course comme la transcontinentale, eh bien, sur le plan physique, sur le plan psychologique, j'apprendrais à mieux me connaître dans l'effort de longue durée et que ça pourrait forcément être une bonne base, une bonne expérience pour en faire d'autres dans d'autres conditions. Et évidemment, je pensais là au pôle sud et à l'Antarctique.
C'est ta capacité à résister sur une transcontinentale, sur le marathon des sables, qui t'ont convaincu que tu avais le niveau physique et psychologique d'endurer les souffrances du pôle sud ?
Oui, c'était pour moi une forme de formation, de nouvelle expérience. Et je crois que c'est important parce qu'on ne part pas dans des expéditions engagées, lointaines, difficiles, en claquant des doigts ou du jour au lendemain. Tout ça est vraiment une construction, un cheminement. Et le fait de participer à ces aventures-là, ça a été pour moi une façon de mieux me connaître. Et je ne suis pas quelqu'un qui suit dans la performance physique pure et dure, même si on pourrait le penser avec ce que je raconte. Je suis plutôt quelqu'un qui veut travailler l'endurance plus que la vitesse. Moi, dans ces courses-là, j'ai jamais terminé dans les premiers et j'en suis bien incapable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de terminer en bon état. Et je me disais que si j'arrivais à m'en sortir par le haut, eh bien, je pourrais aborder une expédition plus lointaine, plus sereinement.
Alors, on va en arriver bien évidemment au pôle sud parce que j'ai des tas de questions à te poser. C'est une expédition extraordinaire, une performance incroyable. Mais il y a dans ton CV très fourni une autre expérience qui m'a interpellé en 2016. Tu pars en Corée du Nord et ils sont peu nombreux, les Français, les Occidentaux, à avoir eu la possibilité d'aller en Corée du Nord pour courir le marathon de Pyongyang qui est ouvert aux étrangers depuis 2014.
Ouais.
Pourquoi cette envie d'aller dans ce pays qui est le plus fermé de la planète pour courir 42 km 195 ?
J'étais toujours étudiant, mais c'est vrai qu'après le tour du monde en 4L, j'avais eu la chance quand même de voir pas mal de choses à travers le monde et j'ai voulu me diriger vers des destinations ou des pays qui étaient un petit peu moins connus. Et donc, c'est pour ça que je suis parti faire des reportages photos, par exemple au Pakistan, au Kurdistan irakien aussi, et en Corée du Nord. La Corée du Nord est un pays voilà, extrêmement fermé, difficile d'accès évidemment. On vous montre que ce qu'on peut vous montrer, ou tout ce qu'on veut bien vous montrer plutôt. Et moi, j'étais pas hyper à l'aise à l'idée de me dire que voilà, je voulais juste aller faire des photos là-bas parce que bah, dans tous les cas on vous montre que ce qui est montrable donc le reportage aurait forcément été un petit peu biaisé et puis j'ai découvert qu'il y avait un marathon qui avait lieu, un marathon international et qui était ouvert aux étrangers depuis oui, quelques années à l'époque. En voyant ça je me suis dit que ça pourrait justement être une bonne façon de découvrir la Corée du Nord avec ce marathon où il y a des étrangers, où il y a des locaux qui participent aussi à cette course et donc c'est comme ça en fait que j'en suis venu à y aller et finalement c'est pas si compliqué avec cette organisation, il faut passer par la Chine. Ce qui m'a plu dans cette aventure-là, c'est qu'il y avait une espèce de fraternité entre les coureurs internationaux et nord-coréens qui dépasse en fait complètement le clivage Occident et Corée du Nord, puisque dans les derniers kilomètres, on souffre pareil, on a tous besoin d'eau et donc on s'échangeait de l'eau, on se tapait dans le dos. Et même si on ne pouvait pas se comprendre parce qu'on ne parlait pas la même langue, il y avait quelque chose dans les regards qui était assez touchant et j'en garde plutôt un bon souvenir. Après, la Corée du Nord, ça reste un pays assez terrifiant.
Est-ce qu'en courant avec notamment des Nord-Coréens,
ouais.
Tu as réussi à gagner un peu de liberté pour un peu mieux sentir ce pays, comme tu le disais fort justement, où tout est cadré et où on ne montre aux étrangers que ce qu'on a envie de leur montrer.
C'est le seul moment où on est un peu libre parce que quand on va en Corée du Nord, on a deux guides. On a un guide qui ouvre la voie et un guide qui ferme la voie. Et puis ces deux guides s'observent entre eux pour être sûr que l'un ou l'autre ne dise pas des critiques sur le gouvernement. Donc c'est une société qui est très, très, très contrôlée. Quand on visite la Corée du Nord, on vous emmène dans le restaurant d'État. Après, on vous emmène visiter tel musée. On vous fait baisser la tête devant telle statue et tout est à la gloire du régime. Il faut avoir le cœur quand même bien accroché et ça peut être assez pesant. comme visite. Alors que le marathon, on n'avait plus les guides qui étaient avec nous parce qu'ils ne nous couraient pas après. On était vraiment libre d'avancer. Après, le parcours était très fléché, codifié, et avec des Nord-Coréens tout autour qui regardaient la course et nous applaudissaient. Mais c'est le seul moment où, effectivement, on gambade libre, sans guide, à travers les rues de Pyongyang. Et c'est vrai qu'il y a un sentiment de liberté, mais aussi un sentiment très curieux. On dirait l'URSS d'antan, quoi. Et là, on court comme ça avec les Nord-Coréens. Mais c'est vrai que le fait de se détacher des guides quand on les a eus sur le dos pendant plusieurs jours, c'était une sensation de liberté assez étonnante.
Mathieu Tordeur, ouvrons maintenant cette page si importante de ta vie avec ce pôle sud atteint. Le premier Français, le plus jeune explorateur à réussir cet exploit. Tu dis, l'Antarctique, c'est un milieu qui ne se mesure pas à notre échelle. Qu'est-ce que tu entends par là ?
L'Antarctique, c'est un continent qui fait 28 fois la taille de la France. Donc, il faut quand même imaginer l'immensité de ce désert. C'est le continent sur notre planète qui est le plus froid, le plus sec, le plus venteux et le plus élevé du monde. C'est-à-dire qu'en moyenne, c'est lui qui est le plus haut. Le point culminant, c'est le mont Vinson, à quasiment 5000 mètres d'altitude. Ça paraît pas énorme, mais quand on est au pôle sud, par exemple, on a 3 km d'épaisseur de glace sous ses pieds. Et ça, je crois que c'est assez évocateur quand on l'imagine. Donc, c'est le continent de la démesure. C'est le continent où le record de froid sur notre planète tourne de moins 90 degrés. Il peut y avoir des vents qui soufflent à 320 km à l'heure. C'est un continent qui est extrêmement hostile, où l'homme n'a jamais été présent de manière autochtone, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune occupation de l'espace par l'homme avant qu'on y aille dans des bases scientifiques. Donc, c'est un continent qui est encore vierge de pas mal de choses.
Mathieu, il y a aussi une grande nouveauté dans cette exploration, cette aventure. C'est que pour la première fois, véritablement, tu vas te retrouver seul. Et tu dis encore une fois, je veux connaître la solitude, la vraie.
Là, en Antarctique, je fais le choix véritablement de partir tout seul pour connaître cette solitude et pour voir en fait ce que ça fait sur un homme que de passer 2 mois tout seul dans un désert vide de tout. Même les animaux ne sont pas présents. Ils se cantonnent à la côte du continent. C'est des animaux marins, des manchots, des baleines, des phoques. Mais sur le centre du continent, il n'y a rien ni personne. Et moi, ce qui m'intéressait dans cette expédition, quand je suis parti en novembre 2018, c'était de effectivement vivre cette solitude et d'essayer de me reconnecter d'une certaine façon aussi au temps. C'est pour ça que je ne suis pas parti avec des chiens de traîneau ou un véhicule à moteur. Je voulais vraiment le faire à pied, à ski, au rythme de 2 ou 3 km par heure pour essayer de renouer une relation un peu avec le temps et l'espace qu'on a tendance peut-être un petit peu à perdre aujourd'hui dans nos sociétés qui vont très très vite. Et je trouvais que faire une expédition un petit peu à l'ancienne en tirant un traîneau et à ski, un peu à la manière des premiers explorateurs de ce continent-là, c'était un peu un pied de nez à notre société moderne. Et puis d'explorer un peu cette solitude, moi qui m'intéressais, puisque je trouve que c'est devenu quasiment un luxe aujourd'hui que d'avoir du temps vraiment pour soi et rien que pour soi.
Revenons au commencement. Donc on est au mois de novembre 2018. Tu es arrivé d'abord à Punta Arenas, à l'extrême sud du Chili.
Ouais.
Et je voudrais que là, tu nous racontes comment se passe ce vol pour atteindre l'endroit où tu vas presque commencer. 3000 km, 4 heures de vol, où là, il doit s'en passer des choses dans ta tête, parce que tu sais qu'après, eh bien, quelques kilomètres plus loin, ça va être le commencement, seul, face à ton destin.
Je suis parti effectivement de Punta Arenas dans un gros avion à réaction russe, un avion cargo qui était dépourvu de hublot. Donc on était assis comme ça dans cette grosse carlingue qui était remplie de scooters des neiges, de barils d'essence, de matériel. Et on volait un petit peu comme ça à l'aveugle pendant 4 heures jusqu'à ce qu'on entende un espèce de gros fracas qui était en fait le matériel qui s'entrechoquait à l'arrière de l'avion quand on a atterri sur cette piste de glace à Union Glacier. Et donc là, on sort de cet habitacle et on arrive sur cette base qui est fabriquée par des Américains, qui est ouverte que 3 mois pendant l'année, puisque l'Antarctique, pour les visiteurs, n'est ouvert que pendant l'été austral, de novembre à janvier. Autrement, il fait nuit tout le temps et il fait trop froid. Et donc, les expéditions, on les fait évidemment à la meilleure saison, qui était au mois de novembre. Et quand j'arrive là, moi, je suis à la fois excité, mais j'ai aussi une appréhension, puisque ça fait des années que je travaille sur ce projet. Ça fait des années que je m'entraîne. Et là, je suis à quelques heures de prendre le départ de cette aventure en solitaire. Donc forcément, il y a il y a une grosse dose de stress, puisqu'il y a des risques qui sont liés à une expédition en Antarctique. Il y a des crevasses, il y a du froid intense. La solitude, je ne la connais pas sur une si longue durée. Donc, j'ai cette fierté d'être arrivé sur le point de départ de l'aventure, parce que c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile, de commencer l'aventure qu'on a rêvé. C'est vrai que c'était un moment assez mémorable, parce que on est sur le continent antarctique, j'y suis, personne ne pourra me ramener à la maison et je commence enfin cette aventure un peu folle. Mais c'est un moment que j'oublierai jamais.
Est-ce qu'à ces moments-là, tu as pu te dire « mais c'est trop dur, mais je prends un risque fou » et ce serait peut-être préférable de rebrousser chemin?
Bien sûr, ça arrive, mais il y a plein de fois où effectivement on se demande un peu ce qu'on fout là quand il fait moins 35 degrés, que la neige est molle parce qu'il neige beaucoup, que la nourriture commence à manquer. On se dit qu'on serait bien aussi au chaud dans un restaurant à Paris, entouré de ses amis, quoi. Et après, la difficulté, c'est d'essayer de se remémorer les raisons qui nous ont poussés à entreprendre l'aventure. Moi, c'est quelque chose qui venait de loin. C'était un rêve que j'avais depuis que j'étais enfant, que d'aller au pôle Sud. J'étais animé par l'idée de me dire que je pourrais être l'homme le plus au sud de la planète, d'être le petit bonhomme comme ça sur l'axe de rotation de la Terre. C'est quelque chose, moi, qui m'a toujours un petit peu animé. J'ai toujours eu envie de ça. Et puis, j'avais été évidemment fasciné par ce grand continent blanc, par les récits de Jean-Louis Etienne et de plein d'autres. Et je voulais le voir de mes propres yeux.
Jean-Louis Etienne, c'est ton mentor, ton inspirateur. Et il a une phrase très belle que tu as fait tienne.
Oui.
On ne repousse pas ses limites, on les découvre. Est-ce que tu as découvert tes limites sur ces 51 jours de marche et ces 1100 et quelques kilomètres parcourus jusqu'au pôle Sud ?
Dire qu'on repousse ses limites reviendrait à dire qu'on les connaît en fait et qu'on évolue dans une zone connue, confortable. Et en fait, non, c'est qu'en se confrontant à des objectifs ambitieux et à des épreuves qu'on apprend à mieux se connaître. Et effectivement, moi, j'étais pas allé au pôle Sud avant d'entreprendre cette aventure-là. Donc, j'étais dans la pure exploration de moi-même. J'étais pas dans l'exploration géographique parce que le pôle Sud a été découvert en 1911 par un Norvégien qui s'appelle Amundsen. Et puis, il y a même une base scientifique qui est installée là-bas depuis 1956. Donc, j'étais pas là pour découvrir un territoire vierge. Et effectivement, bien sûr, il y a plein de moments où j'ai pensé que j'y arriverais pas et je trouvais des techniques, des subterfuges, des motivations supplémentaires pour continuer d'avancer. On se découvre évidemment sous un nouveau jour et c'est ça qui est beau parce que quand on en revient plus fort, on en revient avec une confiance en soi et ça donne envie justement de partir dans d'autres aventures, qu'elles soient sportives, qu'elles soient entrepreneuriales, qu'elles soient amicales. Ça donne vraiment une connaissance de soi qui est encore plus forte. Et donc oui, on apprend à découvrir ses limites très clairement.
Mon invité cette semaine, Mathieu Tordeur, qui nous raconte son périple jusqu'au pôle Sud. Quand on imagine le pôle Sud, on se dit il doit faire un froid glacial, les conditions doivent être absolument épouvantables. Et là, au départ, sur les premières semaines, en fait, c'est tout l'inverse qui se produit. Alors, est-ce que c'est le réchauffement climatique ? C'est toi qui vas nous le dire. Mais tu as des températures presque clémentes pour cet endroit du monde. Et comble de cette exploration, tu as trop chaud parce que tu es forcément trop couvert, parce que toi aussi, tu avais prévu une météo différente.
Ouais, alors j'étais préparé pour des températures de moins 50 degrés. Et c'est vrai que sur le début de l'aventure, sur les trois premières semaines, au lieu qu'il fasse moins 20, moins 25 degrés, j'ai des températures qui évoluent entre moins 5 et moins 10. Parfois, il a même fait moins 2. Et donc ça, c'est vrai que c'était une surprise. Moi, j'étais prêt aux crevasses, au froid intense, au vent. Et là, il fait très chaud. Il fait très chaud puisque en fin d'année 2018, il y a des masses d'air chaude qui sont présentes au-dessus du continent antarctique. Ces masses d'air chaude, elles contiennent beaucoup d'humidité et cette humidité, eh bien, elle se transforme en neige et elle s'accompagne de températures élevées. Et ça a été un vrai souci pour moi. Enfin, on pourrait penser que du coup, il faisait pas trop froid et que c'était justement plus simple. Mais au contraire, cette neige molle qui s'accumulait, elle était profonde parfois de 30 ou 40 centimètres. Et mon traîneau, qui pesait 115 kilos au départ, rempli de nourriture et d'équipement, eh bien, il s'enfonçait dans la neige molle, mes skis aussi. Et donc, au lieu de parcourir une vingtaine de kilomètres comme je l'avais prévu, eh bien, j'en parcourais deux fois moins. Et très rapidement, j'ai commencé à manquer de nourriture, en tout cas à manquer de temps, puisque les températures élevées et la neige molle bénévoles m'ont ralenti.
Et que tu avais prévu de la nourriture pour 50 jours, donc
absolument.
Le temps était compté, tu pouvais pas...
Je pouvais pas m'attarder trop longtemps.
Attendre dans ta tente, tu pouvais pas perdre de temps.
Non, absolument, et puis d'autant plus que de toute façon, à la fin du mois de janvier, l'Antarctique se ferme aux visiteurs, puisque c'est là qu'il rentre dans une période d'hiver où il va faire beaucoup plus froid. Après, ces températures chaudes, elles ont duré à peu près, oui, 3 semaines, 1 mois, c'était un peu une anomalie dans le climat. Les scientifiques et les climatologues que j'ai interrogés, moi, sur cet événement-là, m'ont expliqué justement ce phénomène de réchauffement de l'air autour du continent antarctique et ses masses d'air chaudes. Il faudrait qu'ils l'observent de manière plus régulière pour nouer une relation directe avec le dérèglement climatique, mais moi je suis intimement convaincu que c'est quand même quelque chose d'assez inhabituel et anormal. Après, les scientifiques restent assez prudents, on est quand même loin quand même de toute activité humaine, hein. C'est très loin l'Antarctique, mais il y a quand même des observations qui se font sur le pourtour du continent qui sont très visibles.
La banquise en Antarctique a perdu autant de surface en 3 ans depuis 2014 que la banquise au niveau de l'Arctique de l'autre côté de la planète en 40 ans. C'est donc que forcément le réchauffement climatique a une action néfaste sur cette zone du globe. Alors revenons sur le début. Moi, il y a quelques péripéties qui m'ont étonné et je voudrais que tu les partages avec nous.
Ouais.
Tu dis, il n'y a pas d'autochtones, il n'y a pas d'animaux. Et pourtant, à un moment, alors que tu es seul au monde sur cette immensité blanche, tu te retrouves face à face avec une poubelle en plastique.
Il faut imaginer un grand désert tout blanc en Antarctique. Il n'y a aucune construction faite par l'homme. Il y a des chaînes de montagnes, mais bon, moi, je les vois de très loin. Et j'avance comme ça, les yeux rivés sur mes deux skis, les deux mains posées sur mes bâtons de ski et mon traîneau qui me suit. Et en face de moi, je vois un espèce de point noir un peu bizarre. Et c'est intriguant parce que tout autour de soi, on n'a que du blanc. Et tout ce point noir, je me demande ce que ça peut bien être. Est-ce que c'est pas les vestiges d'une ancienne expédition? Est-ce que c'est une météorite? Enfin, j'en sais rien. Je suis très curieux de voir ce que c'est. Et j'approche cet objet non identifié et là je vois un morceau de plastique épais mais complètement enseveli sous la neige. Donc je prends ma pelle à neige et je commence à déneiger ce que j'ai sous les yeux et je trouve effectivement une espèce de bassine qui était en fait une poubelle en plastique épais qui vient des États-Unis manifestement puisque il est écrit en anglais une espèce d'inscription américaine sous cette bassine. Je sais pas d'où elle vient. Je pense qu'elle a dû tomber d'un convoi de scientifiques. Moi je vois que ça parce que les scientifiques font parfois des expéditions dans les environs et donc j'imagine que c'est ça. Mais c'est vrai que c'était très curieux. Bah, j'étais moins seul avec cette poubelle mais la trace de l'homme était bien présente malgré la distance.
Mathieu, dans Vie d'aventure, on essaye de traduire des émotions, des sensations par des mots. Et je voudrais que dans cette immensité, tu puisses nous décrire le sentiment qui était le tien par rapport au silence, qui est parfois tellement pur qu'il en devient assourdissant.
Quand il n'y a pas du tout de vent, qu'on s'arrête sur le traîneau et qu'on arrête de bouger, que les skis font plus de bruit et qu'on essaye de prendre ce silence pour soi, c'est une sensation qui est très curieuse, déstabilisante aussi. Et c'est vrai que moi, le jour où il n'y avait plus du tout de vent et qu'il y avait ce silence, je me souviens, j'étais en train de skier, je me suis arrêté parce que je me suis dit, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui, il y a quelque chose de pas normal. Et en fait, c'était effectivement ce silence qui était difficile à décrire. C'est un silence pur, blanc. Il n'y a rien autour de vous, une espèce de sérénité et de paisibilité que vous avez jamais vraiment ressenti. Et c'est vrai que on a un silence assourdissant, pour reprendre l'expression. En plus du blanc dominant, c'était quand même une sensation de vertige et de mansité qui était assez forte. On est vraiment face à soi. On n'a personne avec soi, on est dans un continent qui est hostile, qui a envie de vous faire la peau, hein, soyons clairs. Ce grand désert me donnait un sentiment de vulnérabilité immense. Et c'est là qu'on apprend peut-être à mieux s'apprivoiser, à mieux se connaître, puisqu'il n'y a rien là-bas. C'est un environnement qui est très stérile, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas tellement de couleurs. Et donc on doit composer avec soi et avec ses expériences passées et sa vie intérieure.
Le début est compliqué, tu l'as dit tout à l'heure, hein, tes moyennes journalières ne sont pas celles que tu espérais, et en quasiment la moitié du temps imparti, Tu n'as parcouru qu'un tiers de la distance jusqu'au pôle sud. À ce moment-là, tu te dis, il faut, un, que je me rationne pour garder de la nourriture plus longtemps, et deux, que j'augmente mon volume de ski pour skier 12 heures par jour. Et tu dis, et ça m'intéresse que tu nous traduises ce que ça veut dire, à ce moment-là, j'avance comme un animal traqué.
Comme les conditions étaient très compliquées au début et que je faisais une expédition sans ravitaillement, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de nourriture qui était disposée sur ma route, je transportais toute ma nourriture avec moi dans mon traîneau, il fallait effectuer l'expédition en moins de 50 jours puisque c'était l'équivalent en nourriture que j'avais. Et donc face à cette contrainte-là, j'ai effectivement commencé à me rationner, c'est-à-dire de mettre 10% de ma nourriture de côté tous les jours pour pouvoir tenir plus longtemps. Et j'ai surtout commencé à augmenter la durée de mes journées de ski, en skiant 12 heures par jour, tous les jours, sans prendre un seul jour de repos. En vraiment m'astreignant à skier par session d'une heure de ski, faisant que des petites pauses de 5 minutes entre chaque session. Et c'est vrai que j'avançais comme un animal traqué parce que je me sentais en fait chassé, mais chassé enfin, au sens littéral du terme, quoi, par cette mauvaise météo, par cette neige molle. J'avais l'impression que c'était une espèce de démon ou de monstre qui n'avait qu'une seule envie, c'était de me bouffer, de m'engloutir et de me faire disparaître un peu comme la poubelle que j'avais trouvée dans la glace. Quoi. C'est avance ou crève. Quoi. Si je reste immobile, j'atteindrai jamais le pôle sud, donc il fallait avancer coûte que coûte, et c'était un peu une course contre le temps. Je faisais des calculs dans ma tête en permanence pour me dire, voilà, si je fais tant de kilomètres aujourd'hui, bah, il me restera tant, et donc si je divise par le nombre de jours qui me restent, voilà la moyenne. Mais j'avais l'impression d'être en guerre contre les jours, contre le temps, et c'est peut-être d'ailleurs le seul ou l'unique regret que j'ai de cette aventure, c'est d'avoir eu une météo telle qu'il a fallu vraiment mettre le booster, avancer comme un malade tous les jours et tout le temps. Mais j'avais vraiment ce sentiment de me sentir traqué, de me sentir chassé par la mauvaise météo.
Tu prépares depuis des mois, des années cette expédition, néanmoins, et tout le monde va se reconnaître dans cette histoire. Tu oublies ton câble USB qui te permet de recharger ton téléphone satellite. Alors, quand ça nous arrive en partant de la maison, c'est pas bien grave. Quand on se retrouve seul au milieu de l'immensité de l'Antarctique, ça peut devenir dramatique.
Effectivement, grosse erreur de ma part. J'avais plein de câbles différents pour ma caméra, mon téléphone, mes GPS. Et quand je veux recharger mon téléphone satellite parce que je suis arrivé au bout de la première batterie, je ne trouve pas le câble. Parce que je l'ai oublié à Union Glacier sur la première base. Et c'est vrai que là, on a une bouffée de chaleur qui vous monte à la tête assez vite parce que le téléphone satellite est quand même un des éléments les plus importants pour communiquer avec les secours si jamais il arrivait un problème. Et là, on se sent bête parce qu'effectivement, on a tout préparé. On s'est préparé physiquement, on a préparé la route, on a préparé la logistique, on a trouvé les sponsors, et c'est peut-être le câble USB qui va tout faire capoter. Et là, donc grand moment de solitude sous ma tente. Je me souviens, c'était le 15e jour. Et je commence à fouiller un petit peu dans mes affaires, et là je mets les mains sur une batterie supplémentaire dont j'avais complètement oublié l'existence puisque je l'avais achetée quelques jours avant de partir pour le Chili, et j'avais eu la bonne idée de la charger dans ma chambre d'hôtel. Et donc heureusement pour moi, j'ai pu utiliser cette deuxième batterie et l'économiser le plus possible. Elle a tenu jusqu'à 5% jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que ça peut paraître anodin dans notre vie quotidienne en ville, mais là-bas, c'était lourd de conséquences.
Tu es parti au mois de novembre et on est déjà à la fin du mois de décembre, 24 décembre, la nuit de Noël. Et comme par enchantement, un cadeau arrive vers toi. Puisque tu découvres une petite cabane bleue avec à l'intérieur un miroir en cette veillée de Noël.
Effectivement, le 24 décembre 2018, j'arrive vers cette cabane. Et cette cabane, en fait, elle n'est pas installée là par hasard, elle est installée ici puisqu'il y a des petits avions qui font la liaison entre le pôle sud et la côte du continent antarctique qui se ravitaillent en essence précisément à cet endroit. Alors, il n'y a pas une station-service, mais il y a des barils de kérosène qui ont été installés. Et comme on n'a pas le droit de polluer le continent antarctique et qu'il y a quand même, mine de rien, un avion par semaine pendant 3 mois, Eh bien, il y a une petite cabane qui est en fait une petite cabine de toilette avec des toilettes sèches qui a été installée. Et c'est vrai que moi, j'atteins ce point-là le jour de Noël et à l'intérieur, il y a donc ces toilettes sèches, ce miroir. C'est la première fois que je me vois d'ailleurs dans la glace depuis 31 jours précisément.
Et alors?
Et alors, bah, c'était pas beau à voir, hein. C'était pas très beau à voir, barbu, un peu brûlé, des petites gelures aussi sur les joues. Alors rien de trop méchant, superficiel, mais quand même, il fallait le protéger. Et c'est vrai que, bah, oui, quand on s'est pas vu pendant un mois dans le miroir, ça fait bizarre quand on a un peu oublié à quoi on ressemblait. Mais c'est vrai que l'Antarctique vous marque. Et voilà, tout ça se régénère heureusement, mais c'est vrai que ça fait un peu un choc. J'avais l'impression d'avoir pris 10 ans.
Et puis, quelques jours après, bah, tu fais une rencontre, tu retrouves un aventurier japonais, le 31 décembre, donc juste avant la nouvelle année, qui lui était parti d'un point de départ différent, mais qui avait l'objectif, comme toi, de rejoindre le pôle Sud. Ça doit être étonnant, alors qu'on vient de passer plus d'un mois seul, de pouvoir partager avec quelqu'un qui a en plus la même ambition.
Et en fait, un peu comme des bateaux au départ d'une course, eh bien, on prend un départ et puis on suit un cap et puis parfois, bah, nos chemins se croisent et parfois on finit par se retrouver. Et c'est vrai que j'ai vu les traces de Massa dans la neige 24 heures avant de le croiser. Et donc, j'ai suivi un petit peu ses traces et un matin, j'ai vu un petit point rouge à l'horizon et c'était sa tente. Quand vous êtes seul pendant aussi longtemps, vous avez envie de créer la rencontre d'une certaine façon parce que c'est incroyable de voir quelqu'un dans un désert aussi grand. De l'autre, moi, j'étais un petit peu réticent alors que j'étais venu chercher cette solitude. Donc, j'avais l'impression peut-être de casser quelque chose. Donc, c'était effectivement une rencontre assez curieuse qui n'a pas duré très longtemps. Mais c'est vrai que c'était incroyable que de se voir là-bas. Lui est japonais, moi, je suis français. On parlait en anglais tous les deux. C'est pas notre langue maternelle, mais on avait l'impression un peu de parler le même langage, quoi, parce qu'on avait tous les deux vécu 31 jours un peu d'enfer.
Et puis ensuite, alors qu'il te reste aller entre 10 et 15 jours de marche et de ski jusqu'au pôle Sud, eh bien, les choses se compliquent parce que l'ennemi, évidemment, de l'aventurier, c'est la blessure, surtout quand on est seul. Et là, ben, ton genou gauche, il appelle à l'aide.
J'étais en train de filmer quand c'est arrivé. Je trébuche sur une espèce de petite vague de glace qu'on appelle un sastrugi. Je trébuche et je tombe de ma hauteur, mais avec mes skis aux pieds. Et là, mon genou gauche, effectivement, se tord. Et j'ai une espèce de douleur aiguë qui me fait hurler. C'était un sentiment terrible parce que j'avançais quand même. J'étais plutôt dans la course pour arriver au pôle. Et là, j'ai mon corps qui faiblit, qui me fait défaut.
Tu as eu peur d'être obligé d'abandonner ? De téléphoner pour qu'on vienne te chercher à ce moment-là?
Complètement. Moi, c'est le moment qui a été le plus difficile à vivre, ça a été le genou. Parce que avant ça, effectivement, la météo était mauvaise, etc. Mais je trouvais des solutions, je me rationnais, j'allongeais mes journées de ski, je prenais sur moi. Et là, quand le corps ne tient plus, bah, le corps tient plus. On n'a plus tellement de solutions. Moi, il me restait une dizaine de jours de nourriture. Je pouvais pas rester à me retaper sous ma tente pendant une semaine, quoi. Il fallait soit se faire ravitailler en nourriture, soit se faire récupérer. Et donc là, ça a été un moment difficile parce que si la situation s'aggravait, c'était game over. Donc, toujours est-il que moi, j'ai quand même passé un coup de fil à un médecin pour lui demander conseil. Il m'a fait faire des auto-manipulations pour essayer de voir ce que c'était. Heureusement, bon, j'avais bien prévu le coup, mais j'avais des médicaments, des anti-inflammatoires pour soulager un peu cette douleur. Et là, l'idée a été de skier en immobilisant le genou gauche, un peu comme avec une attelle, et donc en me servant beaucoup plus de mes bâtons. Et donc, en fait, j'appuyais beaucoup plus fort sur mon bâton gauche et je faisais glisser mon ski comme ça en avant. Et curieusement, je ne sais pas si c'est l'aspect psychologique ou mental à jouer, mais curieusement, j'arrivais à avancer sans trop souffrir. Mais heureusement, ça s'est amélioré de jour en jour et j'ai pu continuer l'aventure.
On est le 12 janvier, tu es à 38 km du but, tu aperçois le pôle et à ce moment-là, tu décides de décacheter et d'ouvrir une lettre écrite avant de partir par ton père. Je voudrais lire quelques lignes de cette lettre parce que elle m'a bouleversé. Ton papa te dit « Je suis un oiseau, un ange, un drone pour te protéger. Cette liberté a un prix que toi seul connaîtras. Crois en l'instinct animal qui te guide. J'aimerais être avec toi, Mathieu. » C'est une lettre d'amour extraordinaire d'un père envers son fils que tu découvres donc au moment où tu sais que tu vas réussir.
C'est un moment assez fort parce que effectivement cette lettre, moi, elle m'avait été confiée juste avant que je parte, j'avais trouvé ça un peu bizarre qu'on me donne une lettre. Je trouvais que c'était un peu testamentaire, quoi, comme geste. Et du coup, mon papa m'avait dit, bah, tu l'ouvriras si vraiment tu es au bord d'abandonner. Et c'est vrai que quand je vois le pôle, je sais que toutes les difficultés sont derrière moi, puisque mon genou va tenir, puisque je vais avoir suffisamment de nourriture, puisque je suis vraiment pas loin de gagner mon pari. Et je pense que cette lettre, même si je ne l'ai pas ouverte dans les moments difficiles, elle m'a énormément aidé, puisque le fait de savoir que je l'avais, c'était justement une source de motivation supplémentaire. Et je l'ouvre parce que je sais que je vais réussir mon pari, mais c'est vrai qu'elle est très, très touchante. J'ai beaucoup d'émotions quand tu la lis, et c'est vrai que je l'ai partagée dans mon bouquin, parce que c'était un moment fort de l'aventure.
Comment tu réagis quand tu la lis? Est-ce que c'est la première fois que ton père est capable de t'écrire des mots avec autant d'amour?
Pour mon entourage, c'était quelque chose d'assez violent quand même, d'accepter que son fils, que son frère, que son ami partent comme ça 50 jours tout seul dans un territoire aussi hostile que l'Antarctique pour quelque chose de très personnel. Hein. Les parents notamment ont eu un vrai effort à faire, même si c'est vrai que j'étais pas à ma première expédition et qui m'ont toujours soutenu moralement et encouragé et poussé et tiré vers le haut pour réaliser mes rêves. Mais c'est la première fois, oui, que j'ai ce témoignage écrit et dans ces conditions. Mon père avait peut-être aussi besoin de me partager ça et que c'était le bon moment. Et en tout cas, moi, ça m'a aidé.
Nous sommes maintenant le 13 janvier 2019. Il est 12h15 et après 50 jours et 3 heures d'efforts, tu passes tes mains sur la sphère métallique matérialisant le pôle Sud. Tu y es, tu es le premier Français, le plus jeune explorateur à réussir cet exploit. Qu'est-ce qui te traverse l'esprit à cet instant très précis?
C'est un mélange de plein de sensations, de sentiments. Il y a à la fois beaucoup de fierté, beaucoup de soulagement que d'être allé au bout de cette aventure et une pointe de nostalgie. Ça fait des années, moi, que je suis animé par ce rêve. Ça fait 50 jours et 3 heures que je marche pour l'atteindre. Et c'est le bout, c'est fini. Il y a un sentiment d'inconnu pour la suite. Qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce qui va pouvoir bien m'animer? Donc il y a ce soulagement immense, cette fierté immense, et ce bonheur immense. Hein. Jean-Louis Etienne avait aussi une formule magnifique pour dire que toutes les cellules du corps sont heureuses quand on arrive à la fin d'une aventure de cette nature. Et c'est ce que je ressentais. Mais d'un autre côté, je me demandais un petit peu quelle allait être la suite après ça. Mais arriver et voir ce pôle Sud, c'était un bonheur immense, difficilement descriptible. Je souhaite à tout le monde de vivre un moment d'intensité aussi fort parce que c'était vraiment incroyable que de voir ce pôle, de le toucher et d'en faire l'expérience physique, quand, d'être là-bas.
Une petite photographie, Mathieu. Ça ressemble à quoi le pôle Sud? Parce que je parle de cette sphère métallique, mais on est face à quoi pour ceux comme moi, comme la plupart des Français qui n'ont jamais été là-bas et qui n'iront jamais?
Le pôle Sud, c'est vraiment ce point au centre du continent qui est l'axe de rotation de la Terre. Et quand on est au pôle Sud, on voit une base scientifique américaine qui est montée sur des pilotis. On a cette sphère métallique qui est montée sur un petit pylône en bambou rouge et blanc. Et tout autour de ce pylône-là, il y a des drapeaux. Il y a 12 drapeaux, dont le drapeau de la France. Il y a le drapeau américain, belge. Et ces drapeaux-là, ils sont là pour symboliser, pour signifier le fait que ce grand continent antarctique est protégé par un traité qui s'appelle le traité sur l'Antarctique et qui stipule le fait que c'est un continent dédié à la science et à la paix.
Mathieu, tu donnes toujours un sens aux expéditions que tu réalises. Et là, en allant jusqu'au pôle Sud, est-ce que tu as été confronté à cette notion terrible dont on parle de plus en plus, de réchauffement climatique?
Effectivement, le fait d'y être allé et d'avoir été confronté à ces températures très anormalement élevées, de voir ces chutes de neige, eh bien moi, je peux revenir de ce continent et me placer en position de témoin, parce que je suis pas un scientifique ni un spécialiste du climat, mais je peux raconter mon histoire et je le fais beaucoup d'ailleurs dans les écoles pour expliquer un petit peu ce qu'est le dérèglement climatique, ce qu'est l'Antarctique et d'expliquer aussi évidemment les phénomènes en place que j'ai pu vivre à mes dépens au début de mon aventure.
Mathieu Tordeur, quand on vit un exploit aussi impressionnant à 28 ans, comment on imagine l'avenir? Comment faire plus? Comment rencontrer à nouveau des sensations équivalentes ?
J'ai pas envie d'être dans une course à l'exploit ou d'être dans une boulimie d'aventure, même si c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, mais je suis pas quelqu'un qui veut créer ou chercher absolument à battre des records. Là, effectivement, il y a eu le record de jeunesse, la première française, bon, je crache pas dessus, mais c'est pas du tout ce que j'étais allé chercher, ça a été vraiment la cerise sur le gâteau. Mais les prochaines aventures, moi, ce qui m'anime et ce qui me ferait rêver, c'est de réussir à associer mon envie d'aventure, d'exploration et d'expédition avec une cause qui me dépasse et qui soit utile à la société.
Laquelle ?
Ce serait une vraie source d'épanouissement que de réussir à faire des aventures avec des ambitions de sensibilisation, par exemple au dérèglement climatique, au réchauffement, mais aussi par exemple peut-être à la cause animale ou à la microfinance, comme j'ai pu le faire un petit peu avec la 4L. Je ne sais pas exactement encore dans quelle direction j'aimerais aller, mais en tout cas, c'est clair que moi, ce serait un rêve que de réussir à faire ça. J'aurais le sentiment d'être encore plus utile et puis de m'épanouir dans ce qui m'anime le plus, c'est-à-dire le monde de l'aventure.
C'est dur d'être un aventurier professionnel, de vivre de cette passion dévorante.
Ça demande beaucoup de travail, comme plein de métiers. On pourrait penser de l'extérieur qu'on passe, nous, les aventuriers professionnels, notre temps à faire des expéditions dans les jungles, dans les déserts, dans les environnements polaires, etc. Mais en réalité, il y a beaucoup, beaucoup de travail en amont pour préparer ce genre d'expédition. Il y a beaucoup de travail un peu rébarbatif, de recherche de partenaires, de sponsors, de logistique. Et puis, il y a aussi tout un travail qu'on oublie, c'est tout le travail de transmission, de partage. On est en train de le faire là avec ce podcast, mais on le fait aussi avec des bouquins, avec des conférences, avec des films. Et donc finalement, si on n'est pas à l'aise avec tout ce travail de préparation et de partage, c'est pas forcément un métier qui peut convenir à tout le monde. Parce que moi, encore une fois, j'ai passé 2 mois en Antarctique, mais j'ai passé 2 ans à préparer l'expédition. Donc quand on regarde le ratio, c'est quand même beaucoup de temps travaillé pour l'expédition. Donc c'est un métier de passion, qui est un métier de partage. Ça a toujours été. Tous les explorateurs aventuriers ont toujours partager leurs découvertes et leurs aventures. Donc voilà, mais c'est un métier passionnant.
En tout cas, si vous voulez en savoir encore plus sur cette expédition au pôle Sud, eh bien, lisez Le Continent Blanc, écrit par Mathieu Tordeur aux éditions Robert Laffont. Mathieu, un immense merci d'être venu comme ça nous décrire ce que tu as ressenti et nous faire voyager par procuration dans une zone du globe si hostile à la nature humaine. Merci Mathieu.
Avec grand plaisir. Merci.
Merci infiniment de votre fidélité. Quel bonheur de partager cette aventure podcast avec vous. Alors si vous avez des remarques, des suggestions, des propositions, n'hésitez surtout pas à me contacter sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou encore Facebook. Si l'épisode vous a plu, profitez-en pour vous abonner, partager, laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre application de podcast préférée. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité dans Vie d'aventure. Je compte sur vous. Très belle journée.